Bonjour à tous et bienvenue sur Estadia.fr pour notre 10e podcast, aujourd'hui entièrement consacré au 20e Festival International des Cinémas d'Asie, aussi connu sous le petit nom du FICA, de Vesoul, qui s'est tenu donc à Vesoul du 11 au 18 février dernier. Pour parler des films en compétition qui nous ont plu, qui nous ont pas plu, et aussi de toutes les autres sélections, j'ai le plaisir d'accueillir Marie-Pauline Mollaret d'Écran-Noir.fr. Bonjour Marie-Pauline.
Bonjour.
Donc est-ce que tu peux nous parler un peu d'Écran-Noir, si tu veux un peu présenter le site pour nos lecteurs d'Istasia qui ne le connaîtraient pas ou qui sont invités à y faire un tour?
Eh bien, Écran-Noir est un magazine en ligne qui existe depuis 1996 et qui est entièrement consacré à l'actualité du cinéma. Donc on a une partie magazine avec des critiques, des portraits, des interviews, pas mal de choses sur les livres, les expositions. Et puis on a vraiment un blog d'actualité où on suit pas mal de festivals et où on parle de tout ce qui se passe dans l'industrie du cinéma.
C'est la première fois que vous couvriez le FICA ou pas du tout?
Pas du tout. Moi, je vais au Festival de Vesoul depuis 2004. Alors, pas toutes les années, mais sinon, Christophe y va à ma place. Mais ça fait 10 ans qu'on suit ce festival.
Très bien. Et nous avons également Yannick Ruff de Ciné Alliance, donc, qui a suivi le FICA de Vesoul. Bonjour Yannick.
Oui, bonjour Victor, bonjour à toute l'équipe.
Bah merci beaucoup d'être là. Donc Ciné Alliance suit le FICA de Vesoul depuis de nombreuses années, si j'ai bien compris.
Oui, depuis 2005 en fait, hein, on a commencé. Et c'est vrai qu'une fois qu'on va à Vesoul, on a envie d'y retourner.
Est-ce que tu peux nous présenter un peu ton site également?
Oui, alors Ciné Alliance, c'est un site qui existe depuis 1998. À l'époque, pour les plus anciens fidèles, on va dire que ça s'appelait DVD Alliance, pardon. Il y a quelques années, on a transformé ça en Ciné Alliance parce que c'est vrai qu'on est axé de plus en plus sur le cinéma. Donc on couvre beaucoup de festivals, on couvre beaucoup d'événements. Maintenant, on se lance même dans la musique, les jeux vidéo parce qu'on a beaucoup de demandes. Donc, on essaye de couvrir un maximum de choses.
Très bien. Et pour représenter Istasia, il y a donc Jérémy Kaufmann, hein, c'est Jérémy.
Salut à tous.
Jérémy, tu peux nous dire un mot sur Istasia.fr?
Istasia, c'est bien.
Donc le FICA de Vesoul fêtait cette année ses 20 ans d'existence. Nous, à Istasia, ça fait seulement 3 ans. On est les petits jeunes finalement par rapport à vous qui le couvrez depuis bien plus longtemps que nous. Est-ce que, par exemple, Marie-Pauline, tu pourrais nous présenter un peu l'histoire du FICA ou vraiment l'ambiance qu'il peut y avoir en quelques mots ou quelques phrases, hein?
Bah, je pense que le point particulier du FICA, c'est que c'est un festival extrêmement familial où tout le monde gravite autour de la salle du cinéma où ça a lieu. Et c'est-à-dire que vous croisez Boyante Mendoza au café et vous allez taper la discute avec les réalisateurs en compétition. Selon les années, les invités d'honneur viennent aux soirées et s'amusent avec tout le monde. Donc je pense que c'est vraiment ce qui fait la marque de fabrique de ce festival avant tout. C'est vraiment ce côté familial et assez populaire. Parce que c'est un festival qui a quand même des salles extrêmement remplies pour du cinéma asiatique, parfois un peu pointu. Donc c'est toujours une sorte de surprise de voir les films qui sont complets. Alors que j'imagine que quand ça sort en salle, si ça sortait en salle, ça ferait vraiment pas autant d'entrées. Donc voilà, c'est le grand plaisir du festival de Vesoul. Et cette année, il y avait une programmation qui était quand même spéciale pour les 20 ans, hein, puisqu'il y avait la carte blanche des 20 ans avec un certain nombre de films que Jean-Marc et Martine Terwan avaient eu envie de présenter, qu'ils n'avaient jamais pu présenter. Donc c'était l'occasion de voir des films, souvent des grands classiques des dernières années, voire plus anciens. Et il y avait les deux rétrospectives géographiques avec d'un côté les Philippines, de l'autre le Vietnam. Bien sûr, il y avait la compétition et il y avait également...
La compétition documentaire, je pense.
La compétition documentaire, ouais. Qui est un peu...
Bah, c'est vrai qu'on a... pour le coup, on a un peu parlé avant, et c'est vrai qu'on s'est vu dans les salles. On a plutôt suivi la rétrospective philippine et les films en compétition cette année. Donc, on va un peu moins vous parler de tout ce qui gravitait autour des 20 ans du festival. Même si on a pu voir et ça, c'est un des points forts, non seulement des classiques avec la carte blanche des 20 ans du FICA comme La Porte de l'Enfer, L'Hirondelle d'Or et d'autres films effectivement qui faisaient complet. Moi j'étais surpris de voir Les Enfants de Belleville d'Edgar Faraday qui affichait complet à 2 séances, ils ont dû en rajouter. Et c'est vrai que c'est un peu l'avantage de faire un festival comme ça dans une petite ville où les gens n'ont pas forcément accès à ces films et donc se ruent lors des projos du FICA dès qu'ils en ont la possibilité.
Mais il y a eu des records d'affluence d'ailleurs cette année, je crois.
Oui, ils ont battu leur record parce qu'ils ont dépassé les 30 000.
Les 30 000, ouais. Donc ça prouve que l'engouement est de plus en plus grand.
Ça prouve la convivialité de l'événement. Hein.
Oui, et c'est vrai que tout est vraiment resserré dans un petit espace, à part l'ouverture et la clôture qui se tient au grand théâtre de la ville. Tout est autour du multiplex d'un côté où il y a 5 salles, 4 salles, 5 salles, un nombre important de salles qui sont consacrées au FICA. Et d'ailleurs, c'est étonnant parce que je pense que c'est la seule période de l'année dans ce multiplex où des petits films d'auteurs asiatiques font plus d'entrées que les gros blockbusters qu'on peut voir à côté comme La Belle et la Bête. J'ai l'impression qu'il n'y avait personne qui allait le voir et tout le monde se ruait vers les enfants de Belleville par exemple. Donc c'est vrai que ça fait toujours plaisir.
Oui, ça prouve qu'il y a un réel engouement du public pour ce genre de cinéma.
Oui, puis je pense qu'il y a un travail de programmation qui est réussi, puisque c'est quand même un des objectifs des organisateurs, c'est de faire un festival qui soit vraiment tourné vers le public, qui permette de faire découvrir le cinéma asiatique, de le faire apprécier. Et je pense qu'ils y arrivent complètement, avec une programmation qui est de qualité, qui est populaire, parce que c'est vrai qu'ils montrent des films. Tu parlais de L'Hirondelle d'Or, c'est quand même sympa de voir ce genre de films d'action sur grand écran. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment l'occasion de découvrir. Et puis, Asghar Farhadi, par exemple, Les Enfants de Belleville, c'est vrai qu'il s'est fait tellement connaître avec Une Séparation, on a tellement parlé de lui, que c'est l'occasion pour les gens de se dire, tiens, on va voir ce qu'il faisait avant.
Puis dans les salles, on voit qu'il y a vraiment des personnes de tout âge. Voilà, il y a les lycéens, on voit beaucoup de jeunes. Il y a des personnes un peu plus âgées.
C'est vrai que c'est nous. Il y a le... voilà. Le festival fait aussi... donc, les Terouanes étaient enseignants. Il me semble.
Documentaliste aussi.
Documentaliste et enseignant, ils font un gros travail avec les écoles du coin. Donc il y a énormément de scolaires qui viennent pendant le festival. Plus les gens de la région qui sont quand même principalement des retraités. Donc ça crée une.
Il y a une vraie curiosité. Il y a une vraie curiosité. En fait. On les voit se passionner pendant quelques jours. On sent vraiment la passion, quoi.
C'est vrai que les jeunes s'agapent de les voir quand ils sont pendant plus d'une heure après la projection d'un film à poser des questions aux réalisateurs. Voilà. On voit quand même qu'il y a un intérêt. Voilà, il n'y a pas que les retraités qui viennent à Vesoul et qui s'intéressent à ce genre de cinéma.
Bon, même s'il n'y avait qu'une lycéenne qui posait toujours des questions à la fin, spécial de VK si tu nous écoutes. mais c'est vrai que ça fait plaisir. Ça crée une émulation, c'est sympa. Quoi. Ouais.
Et c'est vrai qu'au niveau... Alors, on va revenir notamment sur le cinéma philippin et sur la présence de Briente Mendoza qui représentait le cinéma philippin cette année au FICA un petit peu plus tard dans une troisième partie. Et c'est vrai qu'au niveau des invités, presque tous les réalisateurs des 9 films en compétition étaient présents, rencontraient le public, il y a eu des tables rondes, et chaque séance est suivie d'un débat entre le public et le réalisateur. Ce que je vous propose de faire, c'est de commencer par évoquer un peu le palmarès, dans la mesure où le FICA a, alors je ne les ai pas comptés, mais a beaucoup de prix.
Bah, y a tellement de prix qu'il y a 7 films sur les 9 en compétition qui ont été récompensés. Et je pense qu'il y a une dizaine de prix, après je ne les ai pas comptés.
Et ça prouve aussi la qualité des films cette année, parce que les différents jurys ont récompensé beaucoup de films différents, ce qui est rare, parce que bien souvent dans les festivals, c'est un film qui rafle tous les prix, et là, ça a été vraiment varié.
Donc le premier prix, c'est le jury international, qui donc était présidé par Briente Mendoza, qui a récompensé un film que je n'ai pas vu, donc je vais vous laisser parler de Ten Minutes. Ten Minutes, vous avez, oui, ça c'est mon magnifique accent anglais. Donc est-ce que ce film, d'après vous, méritait ce prix du jury? Et est-ce qu'il y a des liens d'ailleurs avec le cinéma de Briente Mendoza dans ce film coréen, ou pas du tout?
Bah, je pense que Mendoza a été sensible au côté peinture un peu sociale du film. Yannick, tu m'arrêtes si tu penses que je me trompe, mais il y a un côté quand même qui se veut assez réaliste dans le film, dans la manière dont c'est montré, dans le... même dans ce qui est montré, parce que c'est un film qui est extrêmement quotidien, avec des scènes qui se passent beaucoup dans un bureau. C'est quasiment un huis clos dans une espèce de bureau avec des demi-cloisons comme ça. Un endroit assez horrible d'ailleurs. Et moi je me suis dit que Mendoza avait peut-être aimé ce côté assez réaliste, assez limite documentaire.
De quoi parle le film, Yannick?
Ouais, alors c'est vrai qu'on se retrouve dans le film à suivre ce jeune qui est, on va dire, soutien de famille parce que sa famille ne compte vraiment que sur lui et qui se retrouve en difficulté entre choisir entre sa famille, son boulot. Il a une opportunité et il ne sait pas trop quoi faire, quoi.
Et tu es d'accord avec le jugement de Marie-Pauline sur le film?
Mais écoute, c'est vraiment tout à fait ça, parce que c'est vrai que Mendoza, on le sait, il fait des films dans la même veine, donc je pense que c'est ça qui l'a touché le plus, à mon avis, hein, c'est ça. Maintenant, le film, est-ce qu'il méritait le Cycle d'Or? Ben écoute, pourquoi pas, c'est pas, pour moi, c'est pas forcément le meilleur, mais c'est un bon film quand même.
Et vous l'avez vu un peu venir sur le Cycle d'Or ou pas du tout?
Bah, le truc qui pouvait mettre la puce à l'oreille, c'est que le film a déjà une petite moisson de prix, notamment à Busan, qu'il a gagné le prix de la presse internationale, et je crois qu'il avait également le prix du public, ce qui est quand même assez rare pour un film de cumuler ces deux prix. Donc il y avait effectivement un indice que c'était un film qui allait être intéressant et qu'on pouvait retrouver au palmarès. Moi, j'ai quand même été un peu surprise de le retrouver aussi haut placé au vu du reste de la compétition. Parce qu'effectivement, je suis comme Yannick, moi c'était pas mon préféré, ça aurait pas été mon choix. Je vois bien ce qu'il a voulu faire, l'ambivalence des rapports humains, il y a un côté absence de loyauté, il y a les difficultés économiques qui viennent se rajouter là-dessus, donc il y a effectivement un côté presque chirurgical dans son observation de la société, et surtout de ce microcosme professionnel et familial. C'est extrêmement bien filmé aussi, alors peut-être que les jurés ont pu être sensibles à ça, c'est qu'il y a une qualité d'image absolument magnifique pour un film qui a été fait avec très peu d'argent apparemment et qui quand même se passe tout le temps dans cette espèce de huis clos de bureau, et c'est vrai que c'est esthétiquement c'est très beau, c'est très bien composé, il y a un vrai travail cinématographique sur le film.
Ok, oui, parce que on va justement, je pense qu'on peut passer un peu film par film et dresser un petit bilan à la fin de la qualité globale effectivement et cinématographique des films de la compétition. Le jury international a décerné en fait trois prix. Le deuxième prix, qui était le grand prix, c'était Nobody's Home, qui est un premier film d'une jeune réalisatrice turque qui s'appelle Deniz Aksay. Je ne sais pas si je le prononce bien, personne ne parle turc autour de la table. Bon. Et donc il s'appelle Nobody's Home. Qui est là aussi avec avec un très fort contenu social qui raconte le quotidien d'une famille en Turquie qui a perdu le chef de famille qui est le père, qui est a priori décédé. Il y a un doute qui plane autour du film justement sur une disparition, mais qui semble être un décès, et sur la manière en fait dont ça affecte la famille, et notamment la fille aînée qui porte en charge en fait toute cette famille. Donc on est dans une chronique sociale réaliste. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que ça vous a plu, Jérémy?
J'avais trouvé ça très intéressant dans la mesure où il y avait cette galerie de personnages un peu tous perdus, ne sachant pas quoi faire dans la vie. Mais surtout, ce que je retiens de ce film, c'est cette âpreté un peu dans les rapports. Il y a un côté un peu brut qui m'a beaucoup plu. Et ce personnage de la mère qui est assez effrayant, une sorte de femme un peu, une sorte de sorcière qui n'arrive pas à joindre les deux bouts, qui n'arrive pas à se remettre du départ de son mari, quoi, de la mort de son mari ou du départ, on ne sait pas vraiment. Et qui gâche un peu sans le vouloir la vie de ses enfants et c'est un portrait à la fois émouvant et en même temps assez effrayant, quoi. C'est un portrait de femme assez effrayant.
Oui, ça, parce qu'il y a non seulement la fille unique donc, qui porte cette famille, mais la mère qui a un rôle extrêmement important, en fait, qui est incapable d'une quelconque autonomie, mais qui pourtant continue à avoir une influence qui va sur ses enfants, qui les rend aussi complètement dépendants d'elle.
Puis elle est sans
C'est-à-dire que
arrêt
c'est sa
filmée, parce que...
dépendance. Oui.
Puis elle est sans arrêt filmée un peu comme une sorte de, voilà, comme une sorte de monstre qui pompe l'énergie de ses enfants et surtout de sa fille d'ailleurs. Et ouais, c'est très bien, ouais, c'est très bien pensé, c'est très bien montré. Et on ressent vraiment le désespoir de ses enfants qui sont tous un peu chacun de leur côté. Et puis on les voit quand ils rentrent dans ce microcosme-là, quand ils rentrent dans cette maison, et tu les sens qu'ils sont, voilà, ils sont pompés de toute énergie et de tout espoir. Ouais.
Et
Ouais,
une vampirisation,
une
effectivement,
vampirisation, je cherchais le mot, merci
par
Victor.
là. Moi, elle m'a presque fait penser à la mère de Tony Soprano, en fait.
Bah
Dans les
oui, il y a de
Sopranos,
ça. Il y a de ça.
c'est un peu ça.
Oui, mais ce qui est très joli dans le film, c'est qu'on a cette mère horrible, envahissante, et ça pourrait sombrer dans quelque chose de complètement misérabiliste et glauque. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que finalement, les personnages, notamment le personnage de la fille aînée, arrivent à avancer. Et finalement, c'est un peu l'histoire de sa libération, parce qu'elle s'oppose petit à petit à sa mère, elle le fait à sa manière. Qui reste assez douce et tout ça, mais n'empêche qu'elle l'envoie un peu promener, et que à la fin, elle vit sa vie, elle veut vivre sa vie, et tant pis pour sa mère.
Non, mais elle l'envoie promener, mais en même temps, elle se marie avec un homme qu'on voit qu'elle ne l'aime pas. Et elle se marie par défaut, vraiment pour échapper à sa mère, quoi.
Il y a quand même un goût du sacrifice. Enfin, le personnage se sacrifie d'une certaine manière pour échapper à un destin qui est
Parce
encore
qu'on
pire.
montre cet homme, c'est un très beau personnage d'ailleurs, de cet homme-là qui a l'air très gentil, très amoureux, mais qui lui-même se persuade que ça peut marcher. Mais en fait, on voit très bien qu'il y a une scène assez difficile quand ils sont dans la voiture et qu'ils s'embrassent. C'est assez malaisant, quoi. Tu sens qu'il n'y a pas d'amour et qu'elle fait ça vraiment pour se... D'ailleurs, elle se brosse les dents après, c'est assez... Et donc,
Oui, mais le fait qu'elle aille contre la volonté de sa mère et qu'elle épouse cet homme, même si c'est peut-être pas c'était peut-être pas le rêve de sa vie, je trouve qu'il y a quand même le signe. Ça aurait été vraiment trop gros si dans le film, tout à coup, elle envoyait tout balader, elle se mettait à faire tout ce qu'elle veut et tout ça. Il fallait quand même garder un peu de nuance dans le film. Et finalement, cet échappatoire, ça laisse aussi une fin ouverte parce qu'on sait pas après ce
Bah
qui va
là, ouais,
se
surtout
passer.
la fin, oui, elle est assez ouverte, puisqu'on ne sait pas si elle s'est suicidée, si elle va mourir, mais en même temps, on ne sait pas si elle s'est suicidée par pur égoïsme. Pour...
Ouais, raconte pas la fin,
Oui,
puis
c'est
en
vrai.
plus, là, tu parlais du personnage de la mère et pas la fille qui ne se
Alors,
suicide
il
pas.
restait un doute pour les auditeurs qui n'ont pas vu le film, donc qui se disent, peut-être qu'on va le voir, et donc, la mère se
Non,
suicide
mais
peut-être à
vous
la
ne le
fin.
verrez jamais, il ne sortira jamais. Ouais, donc, oui, et bon, je ne parlerai pas trop tard, vous m'avez coupé, c'est fini.
Yannick, tu es d'accord avec le sentiment qu'on a sur ce film, qui est quand même
Bah
plutôt
écoute,
bon,
oui,
quand
c'est vrai
même.
que moi je trouve que c'est comparable à 10 minutes dont on parlait tout à l'heure, parce que là, cette fois-ci, c'est une fille qui est en froid, on va dire, entre son job, entre sa vie perso et entre sa mère. Et voilà, faire un choix, c'est vrai que le personnage de la mère est tellement fort dans ce film que c'est ce qui fait la grande force du film.
Et l'adolescent, alors vous en pensez quoi du personnage de l'adolescent? Il est un peu...
Alors lui, c'est l'adolescent qui me paraît perturbé parce qu'il n'a plus le père. Et voilà, donc on essaye de se mettre à sa place, sans père, se retrouvant seul avec sa mère. Voilà.
Puis cette relation avec la mère de son copain,
Oui.
c'est un petit peu oedipien tout ça.
Moi, je pense qu'il y a un truc un peu culturel aussi dans ce personnage, c'est que finalement c'est lui qui devrait se retrouver le chef de famille, qui peut pas ou qui veut pas assumer ce rôle, on sait pas trop, puisqu'il y a sa sœur aînée qui le fait, et lui il cherche clairement, peut-être justement à pas tomber dans le travers de sa sœur, lui il veut vivre sa vie.
Il y a quand même une fuite aussi certaine du personnage. Le personnage féminin, enfin de la fille, se trouve emprisonnée dans une situation qu'elle n'a pas forcément choisie. Et lui s'enfuit, s'échappe complètement. Mais... Bon, bah, je pense qu'on peut passer au prix suivant, qui était alors la mention spéciale. Je ne sais pas si le festival fait ça tous les ans. J'ai pas l'impression. Mais donc là, qui a été donné à Kissa, donc qui était le seul film indien de la compétition. En même temps, la compétition représentait à peu près, bah, sauf il y avait deux films japonais. Était très mauvais, on va y revenir dans quelques minutes, représentait à peu près un film par nationalité. Donc c'est le deuxième film d'Anoop Singh qui a mis 12 ans pour arriver à conclure son financement de Kissa. Ça a été extrêmement difficile. Donc, de faire un film à la fois en costume, puisque l'histoire commence en 1947,
Sept.
je crois, et qui raconte en fait donc l'histoire d'un homme qui décide, après avoir eu trois filles, d'élever sa fille comme si c'était son fils, et les conséquences que ça va avoir sur la vie de sa famille et surtout sur la vie de son fils. Donc c'est un film qui est à la fois très esthétique, avec une très belle photographie, et qui interroge la notion de genre en Inde. Quel a été votre sentiment sur le film, Marie-Pauline?
Moi, j'aime beaucoup le film. D'ailleurs, je ferai un aparté en faisant remarquer qu'on parle quand même beaucoup de famille dans la sélection cette année. Et c'est assez surprenant, pas qu'on parle de famille, mais qu'on en parle comme ça. Parce que je trouve que les familles sont quand même toutes déconstruites, montrées pas forcément sur leur meilleur jour. Tout à l'heure, on avait une mère assez horrible. Et là, on a un père qui est à sa manière aussi monstrueux. Donc cet homme qui ne supportant pas de ne pas avoir d'héritier mâle décide d'élever carrément sa quatrième fille comme si c'était un garçon, en mentant à tout le monde, mais en lui mentant à elle aussi. Donc c'est ce qui est le mensonge au cœur du film. Et finalement, ce film venu d'Inde nous apporte un message que je trouve extrêmement moderne et extrêmement intéressant, parce qu'il montre qu'élevée comme un garçon, elle ne peut plus ensuite se repenser comme une fille et... Quand elle fait des tentatives en tant que spectateur, on voit bien que elle est déguisée quand elle est en fille et pas quand elle est en garçon.
Alors, pour moi, c'est un film que j'ai eu beaucoup de mal à voir. Hein. On se rappelle ce petit détail. Donc, j'ai fini par le voir quand même, et heureusement. Un film merveilleux, les images, la qualité des images, la qualité des acteurs. Tout est vraiment bien. Il y a un petit côté Bollywood pendant quoi 2-3 minutes, c'est tout. Pour pas, je pense que c'est pour vendre plus facilement à l'étranger.
C'est-à-dire qu'il y a deux chansons dans le film. C'est...
Voilà.
Traduction.
C'est vrai que moi, ce qui m'a déçu, c'est les 10 dernières minutes que je ne raconterai pas, mais voilà,
si, raconte-le.
Jérémy va le faire. Donc,
voilà, ouais, je vais lui laisser l'occasion de le faire. Mais c'est vrai que les 10 dernières minutes, moi, m'ont déstabilisé et ça a fait pencher mon choix vers un autre.
Alors, c'est vrai que le film est toujours à la limite du fantastique et prend un peu un prétexte de conte et est un peu filmé comme un conte et va vraiment, je ne vais pas raconter la fin non plus, mais d'autant que le film va sortir en 2015 en France, donc on aura l'occasion d'y revenir et vous pourrez le voir, celui-ci. Mais c'est vrai que la dernière partie est vraiment dans... finalement abandonne l'aspect réaliste qu'on pouvait voir pendant tout le film et vire vraiment vers le fantastique, vers le conte et vers la métaphore en fait. La fin est beaucoup plus métaphorique, voire allégorique que ce que laissait entendre le film dans tout son déroulement. Donc c'est vrai que ça peut un peu surprendre de finir sur une note où la mise en scène embrasse vraiment ce côté fantasmagorique.
Voilà, peut-être que si on nous l'avait présenté comme un film fantastique, ça aurait peut-être été différent, parce que c'est vrai que si on s'y attendait, voilà, mais là, on est dans un drame, on s'y attend pas du tout, et d'un seul coup, ça vire sur le fantastique, c'est déstabilisant.
Ah, mais c'est bien d'être déstabilisé au cinéma.
Oui, tout à fait, tout à fait. Mais bon, quand on s'y attend pas dans un festival, voilà, c'est...
J'aurais dû mettre un carton, ceci est un film fantastique.
Moi, ça m'a pas gêné comme ça, parce que justement, je m'attendais à une échappée plus ou moins onirique, un petit peu comme ça. Je trouve que c'est quand même amené par l'aspect conte du film, qui est quand même très marqué. Par contre, j'ai trouvé que c'était un petit peu facile, sur la fin, de le terminer en allant vers l'allégorie totale. Enfin, ça permet effectivement d'avoir une conclusion qui me semble un petit peu facile par rapport au destin des personnages et permet d'avoir une résolution qui soit assez fermée, de pouvoir les sauver ou pas. Donc voilà, moi j'étais plus déçu par rapport à la structure scénaristique de l'ensemble et pas par le ton.
Je dis rien, j'ai peur de spoiler, donc j'ai peur.
Ouais.
Non, mais j'ai envie, mais non, mais on le sent bien, quoi, dès le début, avec ce générique un peu enchanteur, etc. puis même sa façon de filmer les persos, de voilà ce postulat de cette petite fille qui est élevée comme un garçon. Voilà, on voit le conte, on le sent arriver, quoi. On sait que, bon, on se dit pas que ça va partir dans l'allégorie totale, etc. Mais ce changement m'a pas surpris et au contraire m'a beaucoup touché en fait.
Donc la fin t'a touché, ouais.
Ouais, la fin m'a beaucoup touché, ouais. J'étais vraiment pris par le. Puis même, c'est quoi l'imagerie que l'imagerie est magnifique, quoi. J'ai encore les plans, encore le plan. J'ai envie de spoiler, mais je ne spoilerai pas. Mais
j'ai encore c'est un plan du milieu du film.
J'ai encore ce plan en tête et c'est des images qui hantent. Et c'est un film, ouais, c'est un film aux images évocatrices, vraiment.
Moi, je suis un peu plus mitigé aussi sur les images. C'est vrai que j'ai trouvé le film assez esthétisant par moments. Enfin, là aussi, je trouve qu'il y a une facilité de faire de la belle image pour raconter. J'ai été touché par le fond du film.
C'est un livre d'images, quoi. C'est un
voilà, conte. On est un peu, oui, dans cette forme un peu ostentatoire comme ça de la belle image, de la belle photographie, des beaux mouvements de caméra. Moi, c'est vrai que je suis beaucoup moins sensible à cette narration, à cette image. Et par contre, il y a Irfan Khan qui a le rôle principal, le rôle principal qui joue le père et qui est terrifiant dans ce personnage. Là, on l'a vu récemment dans The Lunchbox, où justement il a un rôle, bon, enfin c'est un vieil homme un peu aigri qui arrive justement à trouver une certaine forme d'humanité, mais c'est rare de le voir dans un rôle aussi brut en fait, Irfan Khan. Donc c'est quand même une belle performance d'acteur.
Bah, Anoop Singh nous disait d'ailleurs qu'il voulait pas le rôle au début. Qu'il avait dû attendre un an, qu'il avait mis un an pour le convaincre d'accepter le rôle. Donc après, c'est vrai que c'est une superstar en Inde et pour lui de jouer ce genre de rôle un peu voilà très très difficile, c'est difficile à accepter, quoi. Mais il le fait, voilà, c'est fort.
Donc je pense qu'on reparlera certainement de ce film lors de sa sortie en France, puisque c'est une coproduction, donc c'est Arte, donc franco-allemande, et indienne. Donc il y a de très fortes chances pour qu'il sorte dans nos contrées. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose sur ce film qui a aussi eu le prix Inalco, ce qui semble assez logique en fait, vu que il y a un travail aussi sur la langue, c'est tourné en Punjabi. Donc il a eu des problèmes d'ailleurs de financement parce qu'il voulait le faire en hindi, il voulait le faire en Punjabi et pas en hindi, alors que la production en Inde est plutôt bollywoodienne pour ce genre de projet. Donc c'est un prix qui semble assez logique. Un autre film qui a eu deux prix, le prix Netpack et le prix Guimet. Alors je ne sais pas exactement quels sont ces prix, je ne sais pas si vous savez ce que représentent ces jurys.
Le prix Guimet, c'est le musée des arts asiatiques Émile Guimet, qui est un musée parisien qui va à Vesoul. Je pense que ça fait 10 ans qu'ils remettent un prix à peu près, qui projettent eux-mêmes, ils ont un auditorium, donc ils projettent des films tout au long de l'année, des films en rapport avec l'Asie ou des films asiatiques, et ils projettent également les films primés à Vesoul, ils en projettent 3 début mars.
Ah bah très bien, l'occasion d'aller voir tous les films dont Jérémy vous a spoilé la fin, vous connaissez le déroulement. Et donc ce film, c'est The Ferry de Shi Wei, qui relate le retour chez son père lors de vacances d'un jeune chinois qui va dans une région complètement reculée en fait en Chine. Et son père s'occupe en fait de faire traverser les riverains d'un petit village d'une rive à l'autre, donc c'est devenu sa seule activité. C'est une activité que fait sa famille en fait depuis des décennies, comme un tribut qui est payé au village qui les a reçus, donc 3 ou 4 générations avant. Et forcément le père veut que la tradition se poursuive, alors que le fils est un petit peu indécis et a plus des aspirations, on va dire, modernes. On sait qu'il a travaillé dans la ville. Donc cette problématique est développée dans le film, qui interroge donc le poids des traditions, l'aspiration à la modernité, de la ruralité, de la Chine d'aujourd'hui. Est-ce que ces problématiques vous ont touché, Yannick?
Alors si tu me donnes la parole, là c'est mon gros coup de cœur, ce film. C'est vrai que j'ai adhéré à 100% à l'esprit du film, j'ai adhéré la façon dont c'est filmé et à une musique vraiment merveilleuse. C'était vraiment incroyable, une super expérience. Bon, c'est le genre de film qu'on a déjà vu, mais c'est vraiment le genre qui me plaît, auquel j'adhère vraiment. Pour moi, tout est parfait, l'esthétique, la photo, la prise de vue, tout est bon. J'ai aucun point négatif sur ce film.
Bon, moi je dirais que j'ai bien aimé la musique, mais je l'ai trouvée un peu redondante parce qu'il y a quand même deux thèmes
Il y a une
pendant. Et
composition,
voilà,
du coup.
il y a un thème pendant le film qui est utilisé à toutes les sauces quand même et qui revient toutes
Et
les
papy fait de
3,
la
4
télé, il y a la
minutes.
musique, et
Voilà,
papy
dès qu'il y a une activité
enlève
dans
les
le film,
bouteilles.
C'est un petit peu comme
c'est
les
cette
musiques de Isaichi pour les films de Kitano. Voilà, c'est toujours redondant, un thème qui revient, qui nous reste en tête et qu'on n'arrive pas à sortir.
musique. Ouais, moi il est un petit peu trop resté, mais bon. Marie-Pauline, tu as bien aimé aussi ce
Alors,
voyage en bateau?
oui, moi j'aime bien le film. Je suis d'accord avec Annick pour dire que ça reste en même temps un film assez classique. Effectivement, il y a des images magnifiques, mais vu où c'est filmé, je pense qu'il est absolument impossible de ne pas avoir des belles images. Donc voilà, on ne va pas forcément porter ça au crédit du réalisateur non plus.
C'est dans les lointaines montagnes d'Enchi.
Voilà, effectivement, c'est sublime, on a envie d'y partir en vacances. Moi, ce qui m'a intéressé dans le film, c'est la relation entre le père et le fils, que j'ai trouvé assez ténue et assez jolie, puisque c'est vrai que ce fils qui revient et qui critique son père et qui comprend pas pourquoi il fait ça et tout, et qui petit à petit il se croit obligé hein, vraiment de l'aider. Et bon, c'est pareil, le film reste assez ouvert, on sait pas vraiment s'il est convaincu. Moi, je pense qu'il n'est pas convaincu qu'il a passé un été à aider son père et que il n'est pas mécontent de repartir. Mais alors, moi, ce qui m'a passionné vraiment dans le film, c'est le personnage du père qui est. Cette espèce de bloc de loyauté limite absurde, puisqu'il continue à être loyal à une promesse effectivement faite 3 ou 4 générations avant, et il a limite gâché toute sa vie pour continuer à respecter cette promesse en faisant ses allers-retours en bateau, quel que soit le temps, en étant toujours à côté au cas où quelqu'un aurait besoin de lui. Enfin, il a élevé ça au rang de sacrifice ultime. Et je trouve que le film ne donne pas d'avis, il dit pas c'est génial, regardez cet homme, il faut faire comme ça, il dit pas non plus il est vraiment idiot, il faut pas faire comme ça. Je trouve que le film montre ça avec ce que ça a d'absurde et nous laisse réfléchir dessus. Et moi j'ai trouvé ça vraiment intéressant, puisque oui, c'est complètement absurde hein, quand on réfléchit 2 secondes et quand on le voit faire et quand on voit tout le film montre ce principe qu'il a, ces principes qu'il a érigés en règle de vie. Et qui veut transmettre à son fils, et alors il lui annonce les règles, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, il faut pas laisser les gens attendre, les gens sont stressés s'ils attendent trop longtemps. Et voilà, moi je trouve ça passionnant, pas forcément parce que je trouve qu'on devrait faire comme ça, mais plus dans ce que ça montre, dans ce que ça raconte de ce personnage. C'est un personnage qui est complètement obsédé par une tâche qu'il a à accomplir finalement.
C'est marrant parce que moi, par contre, cet aspect de mystère que tu évoques et finalement de liberté que peut avoir le spectateur par rapport au jugement qu'il va avoir, je ne l'ai pas vraiment ressenti en fait. J'ai trouvé que le film guidait quand même le spectateur pour qu'on ait le même parcours du fils, du personnage principal. Et moi, je l'ai trouvé beaucoup moins ambigu que toi en fait. Enfin, d'une part, à cause de la manière dont les paysages sont montrés, enfin, on nous dit de par la magnificence des paysages. C'est quand même là qui est la vraie beauté, qui est la vraie vie, et ça semble être un peu absurde, justement, au contraire, d'aller chercher une modernité, voilà, un pont ou dans une ville, où finalement, même la richesse ne vient pas, parce qu'on sait que le fils qui est parti donc vivre une vie moderne en ville a quand même raté son expérience, donc c'est la raison pour laquelle il revient, il va pas faire fortune. Et donc on nous dit, enfin. Comme la vraie beauté de la Chine, elle est dans ces paysages enfin, qu'on nous montre et pas dans les villes. Et après, dans l'apprentissage que fait le fils, effectivement, il y a des règles qui sont absurdes, mais il a raison. Il suffit qu'il ne suive pas une règle que lui dise son père pour que finalement, bon, bah, soit les marchandises tombent dans l'eau, soit quelque chose se passe mal. Donc, au fur et à mesure, je trouve que le fils est convaincu par le discours de son père. Et le spectateur, qui forcément au début n'est pas du tout convaincu en se disant, enfin voilà, c'est un vieux fou qui vit dans une cabane et qui a fait une promesse millénaire, qui fait traverser des gens pour rien. Finalement, on se rend compte que là résident les vraies valeurs traditionnelles de la Chine, qu'on a raison quand même de préserver cette ruralité qui est menacée de toutes parts par la Chine, qui n'est pas trop critiqué d'ailleurs dans le film. Donc je trouve qu'au contraire, il y a un côté très, très passéiste et très didactique du film, et que le spectateur est un peu pris par la main pour accepter un peu toute cette, voilà, tout ce cheminement. Et ça, c'est un truc qui, enfin, moi, j'ai pas vraiment adhéré justement à ce discours-là, et donc pas du tout au discours du film dans son ensemble. Ouais. C'est plutôt ce côté passéiste en fait qui m'a vraiment gêné. Ouais.
Je pense que ça a été tourné justement de façon à ce que le public, le spectateur, se fasse sa propre opinion si vraiment c'est ça la vie ou si vraiment c'est une vie de misère, quoi.
Ah oui, mais elle a l'air quand même bien sa vie. Enfin, il a de l'amitié, il y a de la loyauté. Il tombe amoureux d'une jeune villageoise qui va l'attendre pour se marier. Enfin bon, il respecte quand même une tradition. Moi,
En
à mon avis,
plus,
y a pas, je vois pas très
ouais.
bien où est l'ambiguïté
Je suis d'accord avec toi,
dans le cheminement
qu'en
du
plus
personnage.
là, je trouve pas qu'il y ait vraiment de fin ouverte, comme tu disais, parce que quoi, il fait aucun doute que ce type il va revenir, quoi, on le sent, et puis tout va bien parce que papa a accepté d'installer une télé quand même dans sa bicoque,
Il a fait des compromis,
donc il
ouais.
a fait des compromis, voilà, tout est bien qui finit bien.
Ouais, mais si c'était si simple, il y aurait une vague de reconnaissance autour. Alors qu'en fait, on voit que les villageois, finalement, ils sont pas si reconnaissants que ça.
Ah, il leur offre quand même des
Ils
trucs, etc.
disputent le gars parce qu'il arrive, il vient trop tard et qu'il soi-disant il l'avait pas entendu. Enfin, il y a
Oui,
quand même un côté, lui, tout ça, il le fait, mais il le fait pas du tout pour la reconnaissance
mais ce
et il n'a pas cette
monsieur-là,
reconnaissance.
qui tabasse le pauvre Pépé,
Il
revient lui installer la télé à la fin, quoi. C'est lui qui lui
y a
installe sa télé, et il y a un petit signe de tête poli, du genre, ouais, excuse-moi, je t'ai frappé, mais je t'installe la télé,
Il
quoi.
y a un personnage qui n'est pas reconnaissant, et finalement, le film montre que bah, s'il le sert,
C'est ça. Je suis un vieux grincheux, mais au fond.
s'il le sert, et qu'il n'y a pas de discrimination par rapport à cette personne, la personne va quand même, enfin, c'est une question un peu de karma qui revient,
C'est
la
ça.
personne va quand même se montrer reconnaissante à la fin. Et il arrive, enfin, il y a un personnage négatif, et finalement, bon, bah, à la fin, effectivement, il s'excuse, il vient lui remplacer, lui installer son antenne, voilà, il lui rend un service par rapport à l'échange de la traversée qui est donnée. Ouais.
Puis c'est un film qui aurait eu plus d'impact, je pense, si on avait entreaperçu un peu plus si on avait entreaperçu les voilà, la Chine d'ailleurs.
Ouais.
Là, c'est vu qu'au travers de, voilà, il y a deux trois bouteilles de coca ou je sais pas quoi que le bonhomme ramasse, mais la situation de la Chine dans son ensemble, on l'a pas, on n'a que ce petit coin de paradis
Ouais, ça reste comme un coin de paradis, ouais,
c'est ça,
exactement.
c'est le dernier coin de paradis de la Chine. On a l'impression que c'est le dernier,
Et qu'il
voilà, le dernier bastion de la Chine à l'ancienne,
faut sauvegarder, mais justement, ce
c'est l'office
côté
du tourisme
passéiste,
qui
voilà,
produit.
on a ce côté office du tourisme, passéiste, et de Chine rêvée. Enfin, moi, c'est un autre truc qui me dérange dans le film, c'est que le film est présenté comme une histoire vraie. Et en gros, par ça, nous dit, voilà, telle qui est la Chine. La vraie Chine, c'est ça. Bon, la vraie Chine actuellement, c'est pas du tout ça, et moi j'ai un peu du mal à croire justement à ce petit coin de paradis, la terre sauvage, voilà, préservée, qui me semble quand même plus trop exister dans la Chine moderne, quoi. Et d'autant que ces valeurs traditionnelles et traditionnalistes aussi me semblent un peu trop idéalisées pour avoir un vrai impact réel.
Parce que c'est parce que oui parce que nos quoi nous on voit, on se dit, mais comme tu le disais tout à l'heure, il est un peu fou, ce vieil homme, de rester là sans distraction, sans rien, à se sacrifier pour les autres, etc. Mais je pense que le spectateur chinois aura pas le même sentiment, quoi, la vision. Je pense qu'il y aura vraiment, il y aura une admiration pour cet homme-là. Et le Shi Wei nous dit vraiment que c'est bien, quoi, c'est le bon
Ouais, moi c'est vrai que
C'est
j'ai
le bon
senti comme
chemin,
ça.
c'est le bon chemin à emprunter, quoi.
Et bon, c'est quand même voilà, pour moi, une idéalisation
C'est ça.
d'une Chine qui n'existe plus et qui aussi est une manière de pas vraiment parler des problèmes actuels de la Chine en idéalisant cette Chine
Ça me fait
fantasmée.
penser
Cela
à.
dit, je m'engagerai pas trop. La Chine, c'est vaste. Je suis pas sûre qu'il n'existe pas encore des endroits très reculés. Tu sais, il faut pas non plus penser
Non, bien
que
sûr, ouais.
c'est la ville partout. Donc de ce côté-là, sur le côté un endroit qui n'existe plus, je sais pas. Après, sur le côté idéalisé, c'est évident. Mais moi, je vois plus le film. Je le voyais plus comme une fable humaine que comme regarder comment est la Chine. J'avoue que moi, je vois pas ça dans le film.
Yannick, un mot pour conclure sur quelque chose de positif, parce qu'on ne va
On
pas
est
casser tous
cynique,
les
nous, on est
films.
cynique.
Oui. Yannick,
Non,
un mot pour conclure, non?
pas mieux. C'est vrai que c'est très poétique, c'est vrai que c'est très contemplatif, voilà, pour les amoureux des grands paysages.
Donc vous l'avez compris, nous n'étions pas forcément d'accord sur l'ensemble des films en compétition cette année au FICA de Vesoul. Fort heureusement, lorsqu'on nous a demandé de sélectionner un coup de cœur de la presse, donc Yannick a remis lors de la cérémonie de clôture à Bastien, parce que le réalisateur n'était pas là, nous nous sommes rapidement mis d'accord sur un film qui était un peu un outsider en fait cette année, parce qu'il fait partie à la fois de la compétition de visage des cinémas d'Asie contemporain et à la fois de la sélection philippine. C'était Quick Change d'Eduardo Roy Jr. Qui s'intéresse au fait au milieu des transsexuels aux Philippines et notamment au trafic de substances pour faire des opérations donc chirurgicales. Tu n'es pas tout à fait d'accord sur ce résumé,
Si, je suis d'accord
Marie-Pauline?
sur ton résumé, c'est juste que je me disais que le trafic de substances, c'était pas forcément très clair. C'était juste pour dire que le personnage principal fait des injections de collagène, entre guillemets, donc des transsexuels qui veulent ressembler le plus possible à des femmes, notamment qui veulent avoir de jolies pommettes et des fesses rebondies.
C'est magnifiquement mieux résumé que ce que j'ai dit. Voilà, et finalement, ça a été, je pense, le seul film sur lequel on était tous autour de cette table assez d'accord, à la fois sur surtout sur les qualités cinématographiques. C'est le deuxième film d'Edouard de Roy Jr. Qu'on avait découvert il y a 2 ans avec Baby Factory. Je ne sais pas si vous l'aviez vu. Voilà, qui pour moi, ça a été en tout cas une vraie découverte, parce que Baby Factory, qui avait cet aspect très documentaire, m'avait laissé assez froid. Et là, au contraire, le film a une ampleur que n'avait pas forcément son premier film. Donc, c'est une vraie découverte. Yannick, qu'as-tu pensé du film?
Alors c'est vrai que c'est un film qui a le mérite d'être tourné comme un documentaire, comme une fiction, pardon, mais qui aurait pu être fait sous forme de documentaire, parce que c'est vrai que le réalisateur Eduardo Roy s'est inspiré de faits réels, mais on va dire que c'est du fait divers, mais c'est vraiment affolant quand on découvre ça. Voir ces gens qui vont s'injecter du gel de pneus pour devenir des femmes, au risque de perdre la vie, quoi. On entre dans un milieu qu'on ne connaît pas, qui est très important aux Philippines, totalement inconnu chez nous. Et c'est vrai que ça fait peur et ça nous fait prendre conscience justement de ce qu'est leur quotidien à ces pauvres gens.
Marie-Pauline, tu n'es pas d'accord non plus sur la formulation.
Si, non, c'est juste le quotidien de ces pauvres gens. On a l'impression que c'est un film misérabiliste. Or, pas du tout, puisque c'est un film qui est super coloré, qui est assez joyeux, qui propose un mélange des genres, puisqu'on a des petites incursions fantastiques, limite un petit peu de cinéma d'horreur par moment, lorsque les fameuses injections tournent mal. Mais oui, moi, j'en retiens l'image d'un film qui est vraiment. Très coloré, c'est vraiment ce qui m'a frappé en fait sur un sujet comme ça, d'avoir fait un film qui soit extrêmement léger, pas du tout misérabiliste, qui présente un personnage central vraiment que je trouve magnifique, Dorina, la transsexuelle qui pratique les injections, qui est flanquée de son neveu qu'elle emmène partout avec elle et dans une sorte de correspondance avouée du réalisateur entre la Vierge Marie et Jésus-Christ. Donc ça c'est assez gonflé et c'est encore une représentation de la famille qui est d'une modernité extrême. Et voilà, moi je trouve que le film en plus a ce côté engagé de parler d'un milieu qui est très ostracisé aux Philippines et dont on ne parle pas tellement en France non plus finalement. Je dirais pas que les scènes sont forcément horribles. Je sais que Yannick, tu avais l'air d'être un peu marqué par les scènes de piqûres et autres.
Oui.
Moi, je le trouve pas très difficile à regarder pour le coup, mais
Disons que le réalisateur a réussi à temporiser avec le personnage du petit garçon qui est là, qui est comme un extraterrestre dans ce monde. Il a rien à faire dans ce monde, mais il le connaît comme s'il avait toujours vécu là-dedans, ce qui est le cas. C'est vrai qu'il y a quelques répliques assez crues aussi, mais voilà, c'est vrai que, comme tu disais, c'est vrai que c'est haut en couleur. C'est le sujet même, moi, qui m'a absorbé, on va dire.
Moi, ce que j'ai bien aimé, justement, c'est le côté plonger effectivement dans un sujet, dans un univers, mais il n'y a pas vraiment d'exotisme, il n'y a pas de voyeurisme dans le film. On nous montre, on ne dit pas, voilà, le monde des transsexuels philippins, regardez ces horribles injections, etc. Tout est filmé de manière très naturelle, avec justement un mélange des genres qui est assez bienvenu, parce qu'effectivement, autant il y a des scènes qui peuvent rappeler un peu le cinéma d'horreur avec ces injections, mais qui ne sont pas non plus dénuées d'humour dans certaines parties. Il y a un côté presque grotesque aussi qui peut être assumé justement sur les transformations physiques que ça peut entraîner. S'interroge aussi l'idée de la beauté, l'idée de la normalité aussi par rapport à ces injections. Donc il y a plein de choses qui se télescopent en fait dans ce film. Et il y a vraiment une audace à la fois thématique qui se retrouve dans ce côté formel, où finalement chaque scène a son identité, chaque scène apporte son lot de surprises et emprunte des chemins qui sont assez étonnants et surprenants. Jérémy, si tu veux rajouter quelque chose.
Bah, moi, ce qui m'avait marqué dans ce film, c'est c'est vraiment la sorte de... Ouais, il prend pas parti, il montre ses femmes, ses hommes... comme ils sont. Après, c'est au spectateur aussi de se faire une idée, peut-être, mais puis ouais, ce côté un peu, comme tu disais, grotesque, et de filmer ces femmes, ces transsexuels sous un jour peu flatteur, finalement. Mais il y a un côté film de genre qui m'a bien plu. Il a été jusqu'au bout, d'ailleurs, en filmant Dorina de face à la glace, nue face à la glace. C'est une scène très forte. Parce qu'il y a sa condition de femme, d'homme, elle est un peu coincée, elle ne sait pas vraiment quoi faire. Ouais, c'est pas misérabiliste, c'est pas... Il y a plein... Je ne sais pas quoi dire, je dis n'importe quoi. On coupera.
Non, mais la représentation du personnage est très intelligente, je trouve, du personnage.
Oui, voilà, c'est ça, ouais.
Qui est vraiment introduit comme une femme. Enfin, finalement, il y a même...
Oui, il y a même une... Il y a même... Voilà, c'est une femme, c'est vrai.
Ouais. Et il le filme tel quel jusqu'à...
Jusqu'à que le gosse fasse une petite blague sur le...
Ouais. Et donc là, le regard du spectateur, en fait, a déjà assimilé en fait que le personnage est une femme. Donc il n'y a pas de retour en arrière qui est possible. Ce qui est une manière justement assez intelligente d'introduire ce personnage par rapport à d'autres transsexuels qui sont montrés justement avec un côté beaucoup plus exagéré qui vient aussi de leur physique, où là il y a l'ambiguïté et pas forcément de mise.
Et ça reste dramatique, mais en même temps, voilà, il te filme pas ça. C'est pas misérabiliste. Non, donc
c'est une extrême normalité.
Voilà, c'est ça.
Et c'est intéressant, je trouve ça passionnant de voir notamment toute la vie privée du personnage, parce qu'on la voit dans ses activités professionnelles, mais on la voit dans sa vie privée, notamment avec son petit ami. Et là, on se retrouve dans un couple, mais d'un classicisme absolu. Ils ont des photos d'eux sur les murs ou sur les meubles. Enfin, ils sont dans une espèce de routine. Le couple est en fin de course. Enfin, on est vraiment dans la banalité la plus absolue. Et oui, sans exotisme, et sans...
Son histoire, c'est une histoire d'amour qui se termine mal, et c'est un truc, c'est un peu sopesque même par moment, je te trompe, mais après on ne sait pas s'il la trompe parce qu'elle a refusé de se faire opérer. Il y a aussi ça, ce côté c'est un transsexuel, mais elle renonce pas à sa masculinité, elle ne peut pas se faire opérer. Donc il y a aussi un conflit intérieur.
Conflit, ouais. En même temps, il la trompe avec une transsexuelle qui est absolument magnifique. Donc on peut aussi comprendre qu'il ait envie d'aller voir ailleurs, ne serait-ce que parce qu'elle est très très belle, l'autre.
D'ailleurs, elle gagne les concours de beauté.
Voilà, c'est la Miss.
Et c'est la seule justement qui apparaît assez, assez belle, quoi, finalement, parce que toutes les autres sont assez effrayantes.
Avec l'héroïne.
L'héroïne est
très belle aussi, ouais. Mais justement, c'est les deux qui
sont les plus jolies.
Voilà. Après, c'est un peu le musée des horreurs, quoi, pour être... c'est pas un jugement, c'est la façon de les filmer aussi.
Bah, par exemple, il y a une scène où effectivement il y a un personnage qui est mort, et en fait on voit le point de vue du cadavre dans son cercueil, qui filme en contre-plongée les personnes qui viennent lui rendre hommage et qui en fait explique oui, elle voulait toujours être la plus belle, mais oh, qu'est-ce qu'elle est horrible comme ça avec toutes ces injections, et qui eux-mêmes ont des visages filmés en tout cas de cette manière en
C'est ça.
contre-plongée avec le point de vue du cercueil, qui ont des visages qui vont vers le grotesque ou ce qu'ils dénoncent par rapport au personnage, enfin ils sont la représentation de ce qu'ils peuvent dénoncer. Donc effectivement, ils jouent, je pense qu'ils jouent aussi, ils jouent aussi avec ça, avec cette. En tout cas, ces corps qui sont inhabituels, hein. Et
Oui,
les
qui sont
films
surtransformés,
qu'ils ont
quoi.
surtransformés, ouais. Et
Les poupées un peu figées, elles n'ont pas d'expression, elles n'ont pas de.
Je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter sur Quick Change. Hein.
Voilà, et s'il y a un distributeur qui nous écoute, il faut le sortir en France.
Oui. Ah ouais, non, ça peut être très intéressant, je pense.
Mission impossible.
Voilà. En tout cas, il a eu le coup de cœur de la presse au
Et
FICA
ça va
de
compter.
Vesoul.
Et ça
Ça peut
compte.
compter pour une affiche, par exemple. Voilà, le coup de cœur de la presse. L'autre film que bon, on va en parler très très brièvement, qui ne sortira, je l'espère pas, en France, hein,
Jamais.
qui a eu le coup de cœur du public, c'est Eugène, le premier film de Junichi Kanai, voilà, alors qui a, comme beaucoup de films de Vesoul, un sujet très fort puisque ça traite du viol, hein. C'est une jeune fille adolescente qui se fait violer par son copain avec qui elle commence. Une relation naissante. Et en fait, ça va expliquer les conséquences de ce viol sur sa vie jusqu'à la rencontre avec et le face-à-face avec son agresseur. Jérémy, qu'as-tu pensé de ce prix du public? Était-il mérité?
Non, mais
Rapidement.
rapidement.
Sans raconter la fin. Non, vas-y, raconte la fin.
On la raconte. Non. Non, mais le problème avec ce film, c'est que tout va bien. La façon dont elle rencontre cet homme, c'est un mec un peu paumé, on le voit qui fait des travaux un peu comme ça, il y a cette histoire d'amour, elle est attirée, voilà, tout est mignon, c'est filmé comme un drama, donc déjà ça commence, on se dit, ah là il y a quelque chose qui va pas. Ensuite, le problème avec ce film, c'est sa façon d'aborder le viol et la façon de presque de dédramatiser le viol et ses conséquences quand il y a ce face-à-face entre le victime et son bourreau, on se dit qu'après bon bah voilà elle l'a pardonné l'a pardonné à son agresseur et donc tout est presque oublié
Ouais, c'est un peu ce qui est gênant dans le film, c'est que le film nous dit d'un côté que le viol est presque tabou. Au Japon, qu'il est extrêmement difficile d'en parler. On voit la suspicion quand elle va, bah, elle veut pas porter plainte, mais sa mère la pousse à porter plainte. Des policiers eux-mêmes qui ont tendance à dire oui, mais bon, vous sortiez ensemble,
Ah, ça,
donc
c'est intéressant
c'est
d'ailleurs.
sous-entendu, vous étiez un peu consentant. Donc, on voit cette ambiguïté qu'il peut y avoir par rapport à la vision du viol au Japon. Malheureusement, le film, alors, se focalise sur le parcours donc de cette jeune fille et comment elle arrive à surmonter cette épreuve. Le film nous dit que bon bah pourquoi pas, enfin pour le surmonter, elle, dans son parcours personnel, elle est obligée de pardonner à son agresseur. Ce qu'on peut comprendre. Le problème, c'est qu'à partir du moment où elle pardonne, le film pardonne également à son agresseur, et la société japonaise pardonne aussi à son agresseur, qui bon, enfin, il n'est pas condamné, il a aucune conséquence. Il a un personnage, c'est un tuteur, une
C'est ça.
tutrice sociale. Qui lui permet de continuer à vivre à partir du moment où justement il a fait cette démarche, le regard est plutôt bienveillant sur lui. On nous dit, bon, bah finalement, c'était une erreur de jeunesse, la vie continue pour la victime comme
Et
pour
puis il y a
l'agresseur,
cette
ce qui est un petit
photo,
peu dérangeant comme discours.
ce plan horrible où les deux adolescents se séparent parce que l'entretien est terminé. Et donc, lui s'en va d'un air, je t'aime, mais je m'en vais. Et elle le rattrape avec le son du violon et se ralentit et dit, tu m'as violé, mais je t'adore, je t'aime, mais je veux pas te quitter. C'est atroce, quoi. C'est
Ouais, c'est un
filmé comme un drama
peu,
avec les violons.
c'est un peu irresponsable.
Et elle continue à suradorer ce mec. Elle lui court après au ralenti. Non, on ne part pas. Non, c'est pas possible, quoi, de faire ça.
Voilà, donc il y avait.
C'est
Alors,
pas possible.
peut-être on peut enchaîner justement sur un peu la sélection du FICA de Vesoul. On l'avait dit, enfin, Alors, ça fait plus longtemps peut-être que vous voyez des films de la sélection, mais c'est vrai que l'impression qui se dégage, c'est que ce sont des films à fort contenu de sociétal, on va dire, qui des fois peuvent mettre la forme un peu de côté. C'était ce qui nous avait apparu il y a 2 ans. C'est peut-être moins le cas de cette année. Donc, qu'avez-vous pensé de la tenue générale de la sélection officielle?
Bah, je trouve que pour la compétition cette année, c'est effectivement beaucoup moins le cas parce que finalement, la plupart des films ont des contenus assez intimes. On a quand même beaucoup d'histoires de famille, comme on disait tout à l'heure, des couples qui se déchirent, des femmes qui essayent de s'affranchir de leur mari, de leur vie. Je pense notamment au film iranien Snow and Pines, également l'autre film japonais Summer's End. Donc on a quand même des contenus qui ne sont pas forcément des contenus très lourds de société comme on peut avoir avec le viol ou la question des transsexuels. On a des films qui sont pas. On ne peut pas leur donner un thème comme ça, comme on aurait effectivement pu le faire dans les années précédentes. Et moi je trouve que c'était une sélection vraiment de très grande qualité cette année, parce que tous les films avaient un vrai intérêt formel, ce qui n'est pas toujours le cas en festival, et que la plupart étaient relativement bien écrits. J'ai aussi noté qu'il y avait beaucoup de personnages très forts et que même si des fois les films pêchaient un peu, il y avait des personnages extrêmement intéressants, notamment de femmes qui étaient beaucoup moins effacées que ce qu'on peut voir des fois dans le cinéma asiatique. Et je trouvais ça vraiment très intéressant. Dans Summer's End, on a une femme qui quitte son mari et son enfant puisqu'elle est amoureuse d'un autre et qui finalement vit avec un homme marié vu de tous et se lance dans une espèce de triolisme. Enfin, il y a un truc. Comme ça que j'ai trouvé vraiment très intéressant. De la construction de ces personnages qui ne répondent pas à ce qu'on attend d'eux finalement.
C'est vrai que sur les. Il y avait des. Quand même, effectivement, à part dans Eugène, quoique dans Eugène, justement, le personnage de la mère qui va pousser sa fille à porter plainte, etc., est assez fort, mais on a vu des. Bah, dans Snow and Pines, dont on n'a pas parlé, qui est centré sur un personnage de femme qui veut divorcer de son mari qui la trompe, donc aussi un personnage bah, féminin qui est très fort, et cette figure va traverser un peu tous les films. Bon, je suis un peu moins d'accord sur le. Alors, c'est moins une labellisation, mais sur le contenu sociétal des films, je trouve que c'est quand même. Ça reste quand même très marqué, même dans Snow and Pines, par exemple. On peut enfin, labelliser très succinctement, comme ça, en disant c'est un portrait d'une femme moderne dans l'Iran d'aujourd'hui. Donc, le contenu sociétal reste quand même très fort dans les films, mais était cette année quand même transcendé, sauf dans Again, par une forme qui était très forte. Enfin, il y a une très belle photographie, par exemple, dans Snow and Pines, un très beau noir et blanc, une écriture qui est aussi très, très intéressante. Donc, ça, c'était vraiment la bonne surprise de ce festival, d'être à la fois en raccord avec le monde asiatique contemporain, sauf The Fairy, à chaque fois je vais dire des saufs comme ça, et en même temps proposer des vraies propositions de cinéma à travers les films. Je pense à Quick Change, à Kissa, à Concrete Clouds, dont on n'a pas parlé non plus, mais qui interroge également en fait, les images télévisuelles par rapport aux images cinématographiques et l'imaginaire, la portée sur l'imaginaire et la manière dont on s'en nourrit. Donc, il y avait des thématiques qui étaient, en tout cas, esthétiquement intéressantes cette année. Yannick, un petit mot sur la sélection.
C'est vrai que les réalisateurs asiatiques aiment parler de la famille, c'est un thème souvent abordé. Et en plus, ils sont champions pour mettre en scène un drame social. Donc, c'est vrai qu'on a beaucoup de films qui parlent des rapports entre les parents, les enfants, rapports dans les couples, rapports avec tout ce qui en découle. Et c'est vraiment fréquent les films qui tournent autour de ce genre de thème. Et ben, une fois de plus, on le voit dans la sélection officielle, on a eu droit à ce genre de film. Donc c'est vrai que c'est pas trop surprenant. L'Asie est championne dans ce genre de film et ils savent les réussir.
Bon, ça manquait juste d'un petit film de genre. Si l'année prochaine il peut y avoir The Raid 3, ça pourrait être pas mal. Ça permettrait de dynamiser un peu l'ensemble. Alors, on voulait faire toute une partie sur le cinéma philippin qui était à l'honneur cette année, sur le regard sur le cinéma philippin. On voit qu'on va un petit peu manquer de temps, peut-être. Hein, et déjà, on a, bon, les films de la sélection étaient intéressants, donc on en a parlé pendant plus d'une heure déjà. Peut-être qu'on peut faire un petit tour de table rapide sur, bah, sur ce que vous avez pensé en fait des films que vous avez vus, et peut-être un coup de cœur de votre coup de cœur du regard sur le cinéma philippin.
Mais ce qui était très intéressant dans cette sélection du cinéma philippin, c'est qu'ils ont montré à la fois du cinéma indépendant, d'auteurs, quand même les festivals, et aussi des films plus grand public, comme La grosse comédie qui a fait un tabac aux Philippines, Here Comes the Bride. Et ça, c'est le genre de film qu'on a beaucoup de difficultés à voir, donc c'est l'occasion de les voir. Après, je dis pas que je suis une fanatique inconditionnelle du film, mais c'était extrêmement intéressant de pouvoir le voir. Et de même que je dirais le pendant, là, The Woman in the Septic Tank, qui est l'autre grand succès, mais cette fois-ci du côté du cinéma indépendant, ça donnait un très bon aperçu déjà de ce qui marche aux Philippines, donc c'est toujours intéressant, et puis de ce qui se fait dans les deux bords. Donc, moi, j'ai vraiment apprécié pour ça. Après, dans la sélection, il y avait aussi des films plus anciens, il y avait des films plus radicaux, notamment, je pense qu'il y avait Death March. Et enfin, bon, il y avait un panel, je pense qu'ils avaient fait exprès, évidemment, de prendre un petit peu tous les genres, un petit peu toutes les époques. Mais ça donnait vraiment un aperçu assez intéressant pour d'agents qui ne voient jamais aucun film philippin, comme j'imagine que c'est le cas de nombreux festivaliers. Là, s'ils ont vu toute la sélection, ils ont un aperçu, je pense, assez représentatif.
Yannick?
Alors pour moi, c'est vrai que, mis à part la compétition, j'ai vu énormément de films philippins, parce que c'est vrai que c'est une occasion unique quand il y a une rétrospective de ce genre. Moi, j'ai vraiment deux gros coups de cœur pour ce festival. C'est, ben, The Ferry déjà, et bon, ça, je pense que tout le monde l'a compris. Et c'est Here Comes the Bride avec Eugene Domingo, qui sortait justement de ce que je disais tout à l'heure, les drames sociaux, les drames familiaux. Là, on entrait dans une comédie délirante, déjantée, un peu fantastique. Et ça faisait du bien au milieu de ce festival de voir qu'un pays comme les Philippines arrive à nous donner une comédie digne de tous les autres pays au monde, en fait, hein. C'est vrai que c'était un grand bol d'air, on a bien rigolé, ça a fait du bien.
Here Comes the Bride, effectivement, bah, c'était bah, peut-être la comédie avec The Woman in the Septic Tank de l'ensemble des 100 films qui étaient présentés à Vesoul. C'est bon, peut-être un peu plus de comédie, pas forcément The Raid 3, mais deux trois comédies supplémentaires pour l'année prochaine, ça serait pas mal. Et oui, enfin, moi j'ai aussi beaucoup, enfin, trouvé intéressant Here Comes the Bride comme vous et Woman in the Septic Tank, d'autant qu'il y avait Eugene Domingo qui était présente et qui est voilà, une star du cinéma indépendant et commercial aux Philippines, et qui est un vrai personnage dans la vie. Elle a fait un peu le show sur ses rencontres avec le public, en interview, etc. Et alors, Here Comes the Bride est aussi intéressant parce que c'est pas tout à fait un film commercial, grand public. Ça reste une production assez indépendante parce qu'il n'y a pas forcément d'argent des networks et de la télévision qui a été mis dedans. Et c'est vrai qu'on sent ce cinéma philippin. Bon, on connaît bien Mendoza par exemple, on connaît quelques noms. On a l'impression que c'est un cinéma qui est souvent assez misérabiliste, centré sur les populations très, très pauvres des Philippines. Et c'est pas mal que de proposer des films comme Here Comes the Bride ou Woman in the Septic Tank, qui parodie d'ailleurs un peu cet aspect, pour montrer que même dans le cinéma indépendant philippin, il y a des tentatives beaucoup plus commerciales, beaucoup plus grand public qui se font. Donc ça, c'était intéressant de découvrir cette facette du cinéma philippin.
Oui, c'est un joli panorama qui permet vraiment à tous ceux qui veulent voir des films philippins, c'est l'occasion unique pour voir vraiment un panorama complet. Voilà, il y a Independencia de Ryan Martin, c'est un truc complètement autoriste, limite autiste même, je dirais. Et,
qui était passé à Cannes,
et qui était
d'un
passé à
regard,
Cannes,
donc
évidemment. Et
c'est
on
ce genre
passe, ouais, on
d'action.
passe à Here Comes the Bride, qui est une comédie un peu hystérique. Non, c'est vraiment un joli, joli panorama. Je suis assez content d'avoir vu certains films, notamment The Woman in the Septic Tank, qui, même si son propos est un peu ambigu et que, comme le disait Brian T. Mendoza dans l'interview, c'est un peu le chat qui se mord la queue, voilà, c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité. Mais c'est intéressant c'est intéressant de voir que les réalisateurs indépendants, les jeunes, arrivent à proposer un truc assez satirique, assez critique.
Voilà, ils arrivent à avoir ce regard-là sur eux-mêmes.
C'est ça. Donc c'est assez drôle. Et c'est assez rafraîchissant. C'est assez rafraîchissant parce qu'on voit, qu'il n'y a pas que des, il y a pas que des gens qui sont dans des bidonvilles aux Philippines. Il y a aussi des gens d'une classe peut-être moyenne ou un peu plus élevée, comme dans Here Comes the Bride, où là ça sent le dollar. Mais sinon, non, ouais, c'est vraiment très intéressant de voir ces films-là qu'on ne reverra pas de sitôt. Non. Je pense.
Alors, quand même, un grand oubli, il me semble, c'est qu'il n'y a pas eu. Autant Mendoza était très bien représenté, vu qu'il était là, il y a eu 3-4 films qui ont été présentés. Il y a eu des films à peu près. Tout le Radiateur, il y avait un film de Jeffrey Jetourian, par exemple, avec The Bad Collector. Mais on n'a pas eu de film de Lav Diaz, qui est quand même l'autre grand cinéaste philippin. Donc la raison qu'on nous a donnée, c'est comme il fait des films de 8 heures, c'était un petit peu difficile de les programmer, mais malheureusement c'est aussi ça aurait été l'occasion de découvrir ces fresques poétiques pendant le festival, quitte à prendre toute une nuit ou toute une journée de Lav Diaz. Mais bon, on aurait bien
aimé. Il y a une des Panoncias, je pense qu'on aurait pu, quoi, les festivaliers auraient pu supporter du Lav Diaz, même si ça dure
Mais une des Panoncias, c'est 1h10, enfin,
c'est vrai. On va pas supporter plus longtemps.
Oui, certes, mais ouais, c'est un peu difficile en festival de proposer des fictions entre 4 et 8 heures.
Ouais.
C'est un peu dur quand même.
Dommage, hein.
Le geek.
Dommage.
Ben je sais pas, peut-être si vous avez un dernier mot sur le. Peut-être votre coup de cœur, toute sélection confondue, un film que vous avez vu qui vous a plu pour clore ce tour de table de Vesoul.
Yannick, on sait déjà, mais il va nous le redire.
Alors, donc, il y a The Ferry et Here Comes the Bride pour Yannick.
Voilà, c'est clair que les deux m'ont vraiment marqué.
Moi, j'en profite, comme les gens cherchent leur coup de cœur, j'en profiterai pour conseiller Leçon d'harmonie d'Emir Benghazine, qui sort le 26 mars, donc sur lequel on aura l'occasion de revenir à la fin du mois prochain, mais qui était vraiment un magnifique choc esthétique et cinématographique qui était présenté dans Avoir 20 ans, qui arrive à être beaucoup mieux que L'étudiant d'Omir Baef, qui est une petite déception sur le cinéma kazakh, tout en s'inscrivant dans cette mouvance donc du cinéma kazakh représenté par Omir Baef.
Oui, mais moi j'aime aussi beaucoup Leçon d'harmonie. Je trouve qu'on prend une leçon de mise en scène magistrale en regardant ce film. J'avais beaucoup aimé aussi. Et sinon, c'est pas vraiment un coup de cœur, parce que mon gros coup de cœur c'est Quick Change, donc on va pas revenir dessus. Moi j'ai bien aimé un film vu en japanimation qui s'appelle Budori de Tsuji Jizaburo. Et c'est un film qui va aussi sortir prochainement. Alors je trouve que c'est visuellement époustouflant comme film, c'est un petit peu flottant en termes de scénario, on s'y perd un peu, mais je sais pas si c'est vraiment un problème, sur le coup c'est un petit peu déconcertant, et puis à la réflexion finalement je crois que c'est vraiment le genre de film où il faut se laisser porter, il faut pas chercher trop à en comprendre. Donc voilà, Budori, je crois que ça sort en mars ou en avril.
Je sais pas.
Surprise, surprise.
Effectivement, il est avant-première, donc il devrait sortir. Est-ce que vous avez un dernier mot?
Ah oui, je ne sais pas, mais
tout le monde s'en fout.
Je t'oublie. Non, mais en fait, on a les mêmes. Voilà, ça restera Leçon d'harmonie, qui est vraiment une petite claque en termes de mise en scène et même de pertinence, parce que ce portrait de la jeunesse kazakh, c'est assez édifiant et en même temps, ouais, on est hypnotisé un peu par l'esthétique et on est un peu porté comme ça. C'est très très beau et faut vraiment y aller quand ça sort. Et dont j'ai encore les images en tête et qui resteront, je pense, un bon bout de temps.
Très bien. Marie-Pauline, Yannick, merci beaucoup pour votre participation.
Merci à vous.
Merci à vous.
Donc on retrouve votre compte-rendu du festival sur écrannoir.fr et cinéalliance.fr également. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine en direct de Deauville, du festival de Deauville, où on aura, si tout va bien, un podcast tous les jours.
Ça promet.
See you, Space Cowboys.